talmudique. Jean-Luc Nancy, Jean-François Boutor, bonjour.
Bonjour.
C'est un très grand plaisir de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre conversation sur la démocratie. La démocratie, les démocraties sont en crise et il semble que cette crise se caractérise par un retour de l'hétéronomie, un retour de la place du divin, de sa loi transcendante ou le retour d'une loi naturelle qui se présente en surplomb transcendant. Pourquoi ce retour de l'hétéronomie? Quel vide cela vient-il combler? Nous avons parlé la semaine dernière du retrait de Dieu, du Tsimtsum. En quoi le Tsimtsum, ce retrait du 1 qui met en place le 2, comme vous l'avez souligné, en quoi cela est-il insupportable à un grand nombre de nos contemporains? Jean-Luc Nancy.
Mais vous savez, en fait, il y a une version philosophique et politologique du Tsimtsum, c'est celle, au fond, qu'a donnée Claude Lefort, on pourrait dire. Parce que Claude Lefort, dans toute sa réflexion sur le totalitarisme, il faudrait faire un détour par ça, et se demander pourquoi il y a eu le totalitarisme. Le totalitarisme, c'était évidemment une volonté de combler donc quelque chose qui devait déjà être ressenti comme trop vide. Or, Lefort avait son titre sur une colonne absente. Lefort affirme que la démocratie, que l'essence de la démocratie consiste justement dans l'absence d'un lieu de reconnaissance et d'identification. Lefort va si loin que, d'une certaine façon, il fait de la qualité d'être démocrate une sorte de vertu, presque surhumaine. Une sorte de sainteté. Il faut supporter de ne pas être identifié. Or, moi, je suis persuadé que, en effet, c'est bien de quelque chose comme ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, la démocratie vivra à la condition qu'elle se donne les moyens de, je ne sais pas quel mot employer, parce que comprendre n'est peut-être pas le bon mot, mais d'accepter, de reconnaître que, en effet, il n'y a pas d'identification, ni du peuple, ni de l'autorité, ni de la loi. Et ça me fait penser que s'il y a une perte plus déterminée, c'est moins la perte du totalitarisme, puisque le totalitarisme, c'était vraiment mauvais. Mais bon. Mais c'est la République. La République a été laissée par la démocratie de se donner une certaine identité. Et une identité peut-être plus secrètement religieuse qu'on le croit, parce que la grande question de la République, je dirais depuis Rousseau, pour ne pas dire depuis Rome, mais en tout cas de Rousseau jusqu'aux républicains de début du XXe siècle, ça a été la question d'une religion civile. Et c'est par rapport à ça que l'Amérique a évidemment fait une différence. Mais l'Europe n'a jamais trouvé de religion civile. Elle aurait bien voulu. Il y a encore pas si longtemps que de bons républicains français faisaient des couplets de regrets sur la disparition de tous les symboles sacrés de la République. Enfin, tous les symboles sacrés. Mais même c'est vrai qu'ils sont tous maintenant fragilisés. L'hymne national, le drapeau, pour pas parler du bal du 14 juillet et du buste de Marianne. Or, la République, dont tout le monde d'ailleurs aujourd'hui se réclame, parce qu'on a bien l'idée que la République, c'est justement comme une sorte de transcendance laïque, mais que justement on n'a jamais réussi à doter d'une vraie transcendance.
Vous voulez dire que la crise de la démocratie, c'est l'impossibilité d'avoir mis en place cette religion civile?
On peut le dire comme ça. Oui, on peut le dire comme ça. Maintenant, je ne sais pas ce que... Oui, peut-être que religion civile est déjà une expression peut-être mal fabriquée, mal forgée, parce qu'au fond, nous savons ce que veut dire aucun des deux mots, ni religion ni civil. Mais là, moi, je suis profondément persuadé que s'il y a un avenir pour la démocratie, il tiendra à vraiment à une mutation spirituelle, ce qui ne veut pas dire forcément qu'elle est une forme religieuse, mystique ou je ne sais quoi, mais à une mutation dans la façon dont toute la société reconnaît ou ne reconnaît pas la possibilité qu'il n'y ait rien au-devant, qu'il n'y ait pas une référence ultime. C'est pour ça, pour le moment, nous sommes dans une société qui reconnaît tout comme valant quelque chose, et tout comme équivalent. Mais rien n'est reconnu comme valant plus que tout. Même quand nous disons la vie humaine, nous savons de plus en plus que nous ne savons pas ce que nous disons, au fond. Et puis, tout ce que nous avons sous les yeux, c'est le mépris permanent et répété de ce supposé respect de la vie humaine. Puis nous avons le sentiment que ça suffit pas, la vie humaine. Que l'homme, c'est peut-être trop peu. Alors, nous voyons qu'il y a aussi tout le reste du monde qui est impliqué dans ce que fait l'homme. C'est pas par hasard, sûrement, qu'on a inventé le mot d'anthropocène. Mais le mot d'anthropocène, j'ai compris, il est interprété comme la grande victoire de l'homme, par d'autres, au contraire, comme la marque de l'échec complet de l'homme. De l'échec à quoi ? De l'échec à être tout simplement un homme.
Jean-François Boutor, ce retour de la transcendance, de la hétéronomie, cette angoisse du vide, de cette ère du vide, est due à quoi ? Cette angoisse du Tsimtsum ?
Il me semble que si on repart de l'euphore, comme la démocratie qui est toujours en écart à elle-même, mais en réalité c'est pas simplement la démocratie qui est toujours en écart à elle-même, c'est la vie humaine en réalité. Et c'est ça qui est de plus en plus difficile à former, puisque au fond les appareils qui d'une certaine manière prenaient ça en charge, qui étaient les appareils religieux ou les appareils idéologiques, se sont défaits, et l'être humain se trouve, les personnes, je veux dire, c'est pas l'être humain en général, chaque personne se trouve devant au fond l'impossibilité de dire avec certitude ce qu'elle est et ce qu'elle va devenir, et surtout le ce qu'elle va devenir aujourd'hui est en train de prendre un caractère extrêmement aigu, extrêmement angoissant. Et par conséquent, il y a la recherche désespérée de trouver des réponses qui vont combler ce vide. Quand j'écoutais Jean-Luc, je pensais que la nouvelle religion qui s'impose, en tout cas, c'est la question de la laïcité. La manière dont on parle aujourd'hui de la laïcité, je veux pas mettre en cause la laïcité, mais la manière dont on en parle témoigne d'une quête religieuse pratiquement, c'est-à-dire d'une espèce de vertu qui solutionnerait les problèmes auxquels on a affaire et qui, au fond, nous dégagerait des responsabilités qu'on a à prendre et qui sont toujours des responsabilités incertaines, me semble-t-il. Et alors, un des problèmes qu'il y a aussi dans la démocratie, si je peux me permettre d'aller un tout petit peu plus loin, c'est qu'au fond, quand il y a des libérations, c'est très bien, on échange, mais au fond, qui va faire valoir que la décision qui est prise selon des modalités sur lesquelles on s'était emprunté mis d'accord, l'unanimité, la majorité qualifiée, la majorité simple, etc., qui va faire valoir qu'elles doivent être respectées par tous. Parce que le principe de la démocratie, c'est que au fond, on se donne ensemble des lois qui vont valoir pour tous. Mais s'il n'y a rien qui symbolise, au fond, l'autorité de ce qu'on a décidé, eh bien, on est livré, au fond, au retour des forces multiples qui sont en jeu, celui qui crie le plus fort, les forces économiques, les puissances techniques, et tout ça se mêle. Et on a besoin que soit manifesté qu'il y a un au-delà de ça.
Mais si je vous comprends bien, c'est pour sortir de ce transcendant et du religieux qui rassure les hommes et qui vient remplir ce vide angoissant, il faut montrer une autre voie qui est celle de l'auto-transcendance.
Oui, ou de la transcendance.
De la pédagogie qui permet de la comprendre. Parce que ce terme auto-transcendance, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Ou ce que vous appelez la transimmanence? Qu'est-ce que c'est exactement pour vous, Jean-Luc Nancy, cette auto-transcendance qui serait cette valeur au-delà de l'ensemble des propositions de chacun et qui en soit le garant?
Vous savez, moi j'ai envie de dire, de répondre comme Descartes. Ce qu'on appelle la l'autotranscendance, c'est la chose du monde la mieux partagée. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'angoisse là dont nous parlons, elle est réelle, elle a une existence, je dirais, culturelle et sociale. Mais en même temps, je suis persuadé, c'est l'expérience, que l'immense majorité des gens sait, d'une certaine forme de savoir, qui n'a pas besoin d'être un savoir savant, sait que la vie a sa limite, que ce qu'on fait a toujours ses limites, et que, en même temps, une existence vaut la peine d'être vécue. On lui donne, en général, quelques raisons d'être, je ne sais pas moi, avoir fait quelque chose, avoir au moins des enfants, au moins, mais je crois que de manière encore plus simple, plus humble que ça, curieusement, les gens sont partagés entre, d'un côté, la dimension générale, sociale et planétaire, etc., qui affole. Et d'un autre côté, tout le monde se suiciderait s'il n'y avait pas des existences au jour le jour avec les gens avec qui le hasard nous a mis. Bon, et puis, voilà. Je connais des gens peut-être très, je pense, sans aucun bagage intellectuel, à la campagne, qui ont ce sens que, ben oui, une vie, ça se vit, oui, et ça mérite d'être vécu. Et quelquefois, évidemment, avec des difficultés, des douleurs énormes, mais il y a, c'est ça au fond. Je veux dire, le principe de l'autotranscendance, il est là. C'est-à-dire que chacun peut savoir que il est au-delà de lui-même, ou que l'homme passe infiniment l'homme, comme disait Pascal. Seulement, je crois que ce qui aujourd'hui crée le problème majeur, c'est que la technique nous a fait croire qu'il y avait une plénitude possible. Or, ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, je crois, la technique elle-même est en train de montrer que non, qu'elle n'a pas de plénitude, elle est seulement capable de multiplier indéfiniment des fins dont on ne voit absolument même plus en quoi elles seraient des fins. Donc, je ne sais pas quoi, de vivre plus longtemps, d'avoir plus de vitesse, plus de ceci, de cela. C'est en train de craquer. Peut-être que là, il y a une nouvelle forme de tsimtsum. Il pourrait y avoir un tsimtsum technicien. Et puis, en plus, ça a sa traduction tout à fait matérielle, pratique, dans la question qu'on appelle écologique ou climatique, mais qui est quand même l'épuisement de l'énergie. Donc, que veut dire une existence qui est suspendue au renouvellement perpétuel des énergies de, bon. Là, il y a quelque chose qui, c'est à peine en train de s'amorcer, mais je pense que ça commence.
Jean-François Boutor.
Ça veut dire qu'on est en train de rentrer dans une forme de transition, et là, j'ai envie de rappeler ce que disait Castoriadis à propos de la démocratie, c'est qu'elle avait besoin d'instituer ses citoyens. Elle a besoin de les former à entrer dans ce qu'elle est elle-même, et dans cette incertitude, dans cet espace vide, etc. Or, précisément, ce qui nous est arrivé aussi, c'est l'effondrement des lieux de formation. Enfin, Jean-Luc Nancy le dirait mieux que moi, mais si on regarde l'état de la philosophie aujourd'hui, dans l'enseignement, c'est devenu des savoirs, et ça n'est plus, si j'ose dire, presque une méthode de vie, ce qui est tout à fait différent. On parle ces derniers jours de ces maîtres, ces directeurs d'école qui se suicident, qui n'en peuvent plus. Curieusement, dans l'école primaire, on a abandonné le nom de instituteur. Or, vous savez que l'institution des enfants, c'est déjà Montaigne qui en parlait. C'est la Révolution française qui crée le corps des instituteurs, et avec l'idée qu'on va former des gens qui vont pouvoir vivre dans ce jeu de la démocratie et de la République, puisque le sens de la République est porteur de la fonction d'instituteur, comme Peggy le disait très bien. Eh bien, on a préféré remplacer, je crois que c'est dans les années 90, on a préféré remplacer ce titre d'instituteur parce que c'était devenu, semble-t-il, vulgaire, comment ça a pu devenir vulgaire, entre nous soit dit, hein. Comment ça a pu devenir vulgaire? On a préféré le remplacer par professeur des écoles, c'est-à-dire quelqu'un qui va permettre d'acquérir des savoirs au sens de technique pour pouvoir ensuite avoir du travail. C'est très important d'avoir du travail. Mais il faut pouvoir habiter la vie, tout simplement. Et ça, c'est ça qui s'est perdu d'une certaine manière.
Et est-ce que on retrouve pas ce que disait Jacqueline de Romilly, que pour faire surgir la démocratie, il faut trois éléments. Il faut l'art de l'éloquence, il faut l'art de la délibération juridique, et de manière très surprenante, il faut aussi la tragédie. J'aimerais vous entendre sur cette nécessité de la tragédie, Jean-Luc Nancy.
Eh bien, la tragédie, on pourrait dire que son centre, ou son épine dorsale, plutôt, je dirais, c'est précisément le savoir, un certain savoir de la finitude. Vous savez, la finitude est très à la mode philosophiquement. On a beaucoup parlé récemment de au-delà de la finitude, comme si la finitude était insupportable. Comme si une vraie pensée de la finitude n'était pas comment la finitude ouvre sur l'infini. Et le héros tragique tel, du moins, je me réfère à la manière dont Benjamin le comprend. Le héros tragique, c'est celui qui s'accomplit, mais pleinement, qui accomplit une plénitude dans sa mort, c'est-à-dire dans sa finitude.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, par exemple, Jean-François Boutor, que le tragique, c'est le destin qui se construit comme destin, alors que la démocratie, c'est la capacité à sortir du destin déjà écrit pour pouvoir s'inventer différemment. Et il y aurait une sorte de contradiction entre le tragique du destin et l'invention qui est au cœur même de la démocratie.
Je suis pas sûr que je vais vous suivre là-dessus. Bien sûr, si on pense à Homère en particulier, enfin c'est pas une tragédie, mais si je pensais, parce que cet été je lisais l'Iliade, il y a fortement la marque du destin. Mais je pense à ce que disait Nicole Leroux de la tragédie. Elle dit la tragédie fait rentrer dans c'est pas une représentation des jeux politiques ni de la communauté, etc. Elle fait simplement rentrer dans la communauté politique qu'elle convoque, parce que c'est une convocation de la communauté. C'était quand même la tragédie à Athènes.
Et c'est un devoir civique.
C'est un devoir civique et elle fait rentrer en fait les éléments que le politique ne prend pas en charge. C'est-à-dire, le politique ne règle pas la question de la mort, le politique ne règle pas la question de l'amour, le politique ne règle pas la question de la poésie. Or, la tragédie convoque ça au cœur de l'assemblée politique, parce que pour vivre, l'assemblée politique, elle a besoin de ça. Et ça permet de revenir à la question du vide. Parce que si on pense à ce que disait Gilles Lipovetsky quand il écrit l'ère du vide, que au fond les individus sont confrontés à un vide qu'ils essaient de combler par des différents modes de consommation, le vide le plus étonnant devant lequel on est, c'est la représentation que les gens ont maintenant, en particulier de la démocratie, comme l'autonomie pure pratiquement. Or, un individu autonome, c'est-à-dire coupé de tous les liens qui le font exister, c'est un individu qui s'effondre sur lui-même. Et si l'individu lui-même s'effondre, alors à ce moment-là, c'est la société qui s'effondre, parce qu'elle n'existe que par les individus qui la forment. Et donc, on a besoin d'une nourriture pour les individus. Et elle ne peut, cette nourriture-là, elle vient pas simplement de la manière dont on solutionne les problèmes économiques, techniques, politiques. Elle vient de ce que vivent les individus. C'est ce que Jean-Luc disait tout à l'heure, en fait, quand il parlait de l'autotranscendance comme une évidence dans la vie des gens. C'est qu'est-ce qui les nourrit? C'est l'amour, c'est la pensée, c'est la poésie, c'est la contemplation.
Thank you.
La fantaisie pour violon et piano, opus 47 de Schoenberg, c'est votre choix. Est-ce une façon d'illustrer que toute partition doit être interprétée fidèlement, mais qu'elle laisse en même temps la liberté à l'interprète de choix internes que nous nommerons écarts et qui font de cette partition un terreau pour une musique à venir et non seulement une musique future, distinction essentielle de l'avenir et du futur que l'on retrouve dans la démocratie comme reproduction ou comme invention renouvelée du nouveau. J'aime beaucoup la phrase de Kant sur la limitation du savoir que vous citez dans votre ouvrage. Jean-François Boutor.
Alors cette musique, moi je l'entends effectivement comme l'écart produit en fait de la contemplation. C'est ça que je trouve extraordinaire dans cette musique, c'est que elle nous surprend. On peut pas la décomposer pour inventer sa suite. Sa suite ne vient pas immédiatement, elle ne vient pas d'elle-même, elle n'est pas le produit d'un calcul et d'une mécanique. Et donc elle ouvre, pour moi, elle ouvre à une autre dimension qui est alors effectivement celle de, en particulier de la liberté de l'interprétation, mais aussi le fait que nous avons besoin des interprétations des autres en fait pour l'entendre.
Ah, moi j'ajouterais qu'il faudrait reprendre toutes les raisons pour lesquelles cette musique, Schoenberg et d'autres, est venue au jour. C'est que je crois qu'il s'est produit une saturation énorme d'une musique qui elle-même tendait à la saturation dans le 19e. Et à quelle saturation? À la saturation de la célébration d'une sorte de grand absolu, d'absolu de grandeur, de gloire, de puissance, de la nature, tout ça. Bon, à quoi, d'une certaine façon, dans la musique du 19e, pas grand monde échappe, sauf peut-être Schumann. Et Beethoven, disons, oui, d'accord. Tous les derniers quatuors de Beethoven échappent à ça. Mais je suis de plus en plus extrêmement frappé par le fait qu'il s'est produit une sorte vraiment d'écœurement, musical. Et pictural aussi, d'ailleurs. Et les grandes ruptures de l'art moderne, elles sont venues de ça, d'un écœurement devant un trop-plein. Alors maintenant, on est passé dans un autre trop-plein, mais qui est dans un trop-plein de multiplicité, mais dans lequel cette musique, la Schoenberg, ne rentre pas, et beaucoup d'autres musiques ne rentrent pas, alors qu'en revanche, se reconstitue quelque chose comme une sorte de saturation. Dans le rap, il y a une saturation. On dit tout et on le dit sur un mode très très répétitif. Bon, il y a quelque chose qui manque là-dedans. Il y a quelque chose qui ne chante plus là.
On retrouve le tsimtsum, c'est-à-dire on retrouve la nécessité du retrait et du vide.
Maintenant, je peux pas dire comment ça se passe maintenant dans la musique. Je ne sais pas, mais je suis toujours à guetter s'il y aurait des musiques, je veux dire des musiques populaires, pas des musiques savantes, oui, il y en a très bien, mais des musiques populaires qui tiendraient la place de ce que la chanson a tenu. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus de chanson, mais la chanson, c'est une espèce d'équilibre extrêmement fragile entre une conscience très claire de la limite, de la finitude, et quand même un envoi vers quelque chose qui, d'une certaine façon, ne se finit pas non plus.
Alors justement, les dernières pages de votre ouvrage, Jean-Luc Nancy et Jean-François Boutor, offrent une réflexion sur l'anarchie comme dépassement de la démocratie par elle-même, dans son propre écart, une anarchie qui n'est pas celle des anarchistes, mais celle d'un espoir et d'une ouverture sur un avenir qui ne se referme pas dans la structure d'un futur, Jean-François Boutor.
Oui, parce que le futur, tel qu'on le définit dans le livre, c'est le futur de la technique, c'est-à-dire c'est le futur du développement du calcul qui projette à l'infini ses projets et qui veut en rajouter toujours.
C'est le futur de la note que l'on sait qui va venir.
Oui,
contrairement à la note toujours inattendu.
La question, c'est devant laquelle nous sommes, justement au moment où il y a tellement de saturation et on ne pourra en sortir qu'en rompant avec la saturation, c'est de croire qu'il y a un avenir, mais que cet avenir, il est comme le pays qui est promis à Abraham, c'est le pays que je te donnerai, c'est-à-dire il n'est pas connu, il va falloir le découvrir, il va falloir le construire. Et pour moi, un des enjeux, je vais revenir sur la question du peuple, mais pour la prendre par autrement, c'est-à-dire l'un des enjeux, c'est la construction d'un nous. Un nous qui accepte de faire face à cette rupture de la saturation. Ça veut dire que qu'il soit capable de passer entre les individus qu'il constitue une alliance. Ça, c'est pour. On a terminé d'ailleurs presque sur ce mot-là, parce que il y a besoin de se réaffirmer. Alors quelque chose qu'au fond, dont on a fait l'expérience même dans l'écriture du livre, une confiance l'un dans l'autre face à un inconnu dans lequel on va entrer, dans lequel on va essayer d'inventer, ou plutôt on va permettre aux générations suivantes, parce que c'est pas nous qui allons le faire, aux générations suivantes d'inventer cet avenir. Me semble-t-il.
Tout le monde sait, au fond, que dans la vie, oui, il peut y avoir de l'imprévu, énormément imprévu, et vous pouvez vous retrouver dans un camp de réfugiés, où vous pouvez vous retrouver ayant absolument tout perdu, tous vos biens, et les gens vivent quand même. Cette vie-là est peut-être le au fond. Ce qu'il y a de plus excellent, de plus fort, de plus rare dans la vie par rapport à ce qui nous est facile, puisque bon, mais l'épreuve, je crois que en effet, peut-être qu'il n'y a aucune culture forte qui ait existé sans connaître l'épreuve de l'inconnu.
Jean-François Boutor.
En écoutant Jean-Luc Nancy, je pensais à une chose quand Jean-Luc parlait du fait que il y a des catastrophes et on vit encore. Il y a des drames et on vit encore. Je pense qu'on est à un moment assez particulier en Occident, cet Occident qui a connu l'abondance, dont l'abondance a fait peut-être perdre la conscience aiguë de ça par rapport à la génération de Jean-Luc, de ses parents ou des miens, qui sortir de la guerre avait été dans la situation de « il faut vivre quand même » et on vit.
Oui.
Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui à nous en Occident? Il nous arrive des gens qui ont traversé ou traversent encore ces expériences-là. Et c'est la chance qu'ils sont pour nous. C'est pas qu'ils vont être la main-d'œuvre qui va nous manquer parce que on n'aura que des sociétés de retraités. C'est parce qu'ils réintroduisent au cœur de notre société et ils nous réapprennent que même quand ça s'effondre, il y a de la vie et de la vie est possible. Et c'est ça qu'ils viennent dire et qu'ils font. Moi, je pense j'ai rencontré très, très récemment un jeune homme qui a failli se noyer deux fois dans la Méditerranée, qui vient de Mauritanie. Et pourquoi il est parti de Mauritanie? Parce que avec le nom qu'il a, il est destiné à être un esclave et qu'il veut pas être un esclave. Donc il a traversé, il a pris le risque de mourir. Il est arrivé là. Et il arrive là et dans des conditions absolument impossibles. Quoi. Il a failli se retrouver à la rue parce qu'il y a un problème administratif, etc. Peu importe. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, peut-être que je vais être renvoyé chez moi, mais même si je suis renvoyé chez moi, je serai plus fort, j'aurai appris à vivre encore plus. C'est une leçon formidable pour nos sociétés aujourd'hui qui sont dans ces états de saturation et dont les états de saturation rendent presque impossible la conscience même du fait que l'on vit en tant que tel et que la vie vaut pour elle-même, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle se développe.
Vous savez, il y a dans le film...
Allez-y. Oui.
Le film de Kiarostami qui s'appelle « Et la vie continue », dans ce film, après le grand tremblement de terre de Téhéran, on rencontre quelqu'un qui est en train de planter une antenne de télé un peu sur une colline pour pouvoir voir la Coupe du Monde. Et celui qui le rencontre lui dit « Mais tu crois que c'est vraiment le moment de ce tremblement de terre ?» Et l'autre dit, oui, mais la Coupe du Monde, ça n'a lieu que tous les 4 ans, hein. Il ne faut pas la rater.
Merci Jean-Luc Nancy, merci Jean-François Boutor pour ces belles leçons de vie et de philosophie, ou de philosophie et de vie. Merci pour ces éclairages, merci pour ce dialogue et pour votre livre à quatre mains, dont je rappelle le titre, La démocratie hic et nunc, ça veut dire ici et maintenant, pas simplement une réflexion philosophique, mais vous ouvrez des pistes, vous nous offrez des chemins de réflexion concrètes, paru aux éditions Bourin. Merci encore à tous les deux, Jean-François Boutor et Jean-Luc Nancy. C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wakenin. À la prise de son aujourd'hui, Claire Levasseur, à la réalisation, comme d'habitude, d'Annie Journeau, qui est déjà en train de planter son antenne pour la future Coupe du Monde de football. Vous retrouverez tous les détails biographiques et bibliographiques de nos invités sur le site de France Culture, à l'onglet Talmudique, Kol Tov, Leitraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.